Intersection. Vendredi, on sera le 17 mai. Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies. Ça n'a pas été choisi au hasard. Le 17 mai 1990, l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors oui, c'est vrai, 1990, c'était il y a bien longtemps, dans une galaxie far, far away. Mais si je vous dis que la transidentité, c'est en 2019 qu'elle a été retirée de la même liste des maladies mentales, hein, peut-être que vous voyez mieux l'enjeu. Surtout que récemment, on a vu que tout pouvait reculer assez vite. L'Observatoire de la Petite Sirène, Hypomonie et le duo Moutot-Stern. On a eu droit récemment à une offensive transphobe d'une rare violence, avec une loi qui doit être présentée à l'Assemblée nationale le 28 mai prochain et qui vise à interdire les transitions sociales et les bloqueurs de puberté avant 18 ans. On roule vers l'effondrement médiatique en mode Don't Look Up, il y a une guerre en Europe et un génocide en cours en Palestine, et les rageux de droite et d'extrême droite, c'est quoi leur urgence? Emmerder les personnes trans. Non mais on vous voit avec vos polémiques pour détourner l'attention alors qu'en vrai les gens ils s'en foutent. La peur, vous connaissez que ça pour mobiliser. Les wokistes veulent transformer vos garçons en petites filles et les réseaux sociaux répandent l'épidémie transgenre dans les cerveaux de nos ados. Ouh. Après les éco-terroristes, les trans-terroristes? Il y a 11 ans, c'était la Manif pour tous qui vomissait son homophobie dans la rue en utilisant le même argument de protection de l'enfance. On les a pas trop vus quand il fallait protéger les enfants des curés. Mais manifestement, même à l'extrême droite, on est moins ouvertement homophobe, il y a même pas mal de mecs gays au RN. Ça les rend pas révolutionnaires pour autant, mais ça prouve que là-dessus, on a un peu avancé. Nous sommes une épidémie, répondait Paul B. Preciado le 5 mai. Et le 5 mai, c'est 20 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour défendre les droits des personnes trans. Et vendredi, c'est toutes les LGBTI-phobies qu'on va défendre, parce que des droits, il y en a encore plein à conquérir, et que surtout les rageux de la fachosphère, il faut pas leur céder un pouce. Oui, nos désirs font désordre, nos genres sèment la pagaille, et avec un peu de Marx et un peu de Beyoncé, et beaucoup de trans, de Gwyn et de PD, on va continuer à vous empêcher de patriarcaliser en rond.
Waouh, merci Bertrand.
De rien. Salut Tiffaine.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Bah oui, on a une invitée.
Ben oui. Salut Delphine.
Bonjour.
Delphine Bruno, donc tu travailles au cinéaste et merci d'être venue.
Avec plaisir.
À Intersection. Ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de t'avoir à l'émission, de caler un rendez-vous. On se voit souvent hein, au cinéaste. Toi, tu étais au cinéaste. Peut-être tu pourrais présenter le.
Bon, je pense oui, que les auditeurs connaissent. Alors, je travaille au cinéaste depuis 2003 déjà. C'est un cinéma qui propose plutôt des films d'auteur, des films vraiment dédiés à l'art et essai, des documentaires, des fictions, des cycles dédiés au patrimoine, une programmation jeune public. Et puis l'idée de ce cinéma, c'est effectivement de créer du lien aussi, hein, d'instaurer des ciné-échanges, des ciné-débats sur plusieurs thématiques. C'est vraiment un lieu culturel d'ouverture aussi. Hein.
Un lieu de formation populaire, on pourrait dire.
Oui, enfin, lieu d'éducation populaire, c'est ça, de formation, ou même ouais, d'éducation populaire, c'est ça.
Par le cinéma, notamment.
Exactement, vraiment, on essaie de créer du lien, que ce soit pas finalement qu'un lieu de consommation comme d'autres types de cinéma, mais de proposer aussi autre chose après les séances, en fait.
Et alors, sur le cinéma comme médium, en fait, de formation, en fait, il y a quand même toute la question du genre, en fait, du genre. Alors, pas du genre, parce que quand on dit genre au cinéma, en fait, on se dit, bah, c'est western, horreur, etc. Mais je pense plutôt le genre en termes de gender studies. Donc, les sexismes, LGBTI-phobie, comme j'ai dit juste avant. Est-ce que, donc, c'est des questions qui sont de plus en plus débattues, qui sont de plus en plus visibles dans l'espace médiatique, public, enfin voilà, la société s'en empare, etc. Est-ce que toi, depuis 2003, j'imagine que tu vas me répondre oui, hein. Depuis 2003, j'imagine que tu as vu une évolution au cinéma, et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi
t'as perçu ? Oui, il y a eu une évolution, effectivement, et puis c'est vrai que, alors que ce soit les documentaires, les fictions, nous on en propose beaucoup, en fait, pour sensibiliser aussi le public aux enjeux féministes. Alors, notamment à travers, effectivement, des documentaires. Moi, je pense à des documentaires qu'on a passés récemment, « Je vous salue salope » ou encore « Riposte féministe » aussi.
Alors, « Je vous salue salope », c'était un documentaire sur le cybersexisme.
Exactement, le cybersexisme, le cyberharcèlement, en fait.
Je crois qu'on en avait passé un extrait dans l'émission.
Oui, on en avait passé un extrait, ouais, tout à fait. C'est toi qui l'avais proposé.
Et l'émission avait donné lieu à un ciné-débat, je crois.
Exactement, en fait, c'était quatre portraits de femmes aussi à travers le monde qui vivaient en fait, du cyberharcèlement au quotidien. Donc quatre générations de femmes aussi différentes. Donc c'est vrai que nous, on propose beaucoup de débats aussi suite aux projections avec des collectifs aussi, des collectifs féministes, avec le planning familial. Et puis non seulement ça, mais à travers les films aussi, plutôt des films d'ailleurs dédiés au patrimoine. On a notamment proposé dernièrement une rétrospective consacrée à une réalisatrice suédoise qui s'appelle Maj Zetterling. Et en fait, c'est une pionnière vraiment du cinéma féministe. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans son œuvre, c'est qu'elle posait déjà un regard totalement très inédit, très moderne aussi, sur la place des femmes dans les années 60 aussi.
Donc les années 60, c'est le temps de son travail, j'imagine.
Exactement, ouais. Tout à fait. Et c'était déjà une sorte de précurseur aussi hein, du cinéma féministe, du cinéma engagé. Donc c'est vrai qu'au quotidien aussi, on essaie quand même de programmer des œuvres avec un regard, ce qu'on appelle un regard féminin, le female gaze aussi, dont peut-être vous aviez parlé aussi lors d'émissions, théorie en fait féministe sur le cinéma qui questionne aussi le regard de la spectatrice ou du spectateur porté sur les programmes, les protagonistes féminins d'un contenu culturel en fait. Alors non seulement on passe des documentaires sur le féminisme, mais on passe aussi des films de fiction féministes aussi. Et c'est vrai que c'est très important, en fait, parce qu'on sent quand même que... Alors, effectivement, heureusement, il y a eu une évolution. Malgré tout, je trouve que ça reste quand même assez timide, en fait.
En fait, oui, on a l'impression qu'il y a des réalisatrices qu'on connaît moins. Moi, ça me serait plus difficile pour moi d'en citer 5, alors que je pourrais citer 5 réalisateurs, par exemple. Donc j'imagine qu'il y a tout ce travail de visibiliser des femmes au cinéma. Et puis j'imagine qu'il y a aussi tous les métiers plus invisibles du cinéma qui peuvent être plutôt à domination masculine et qui sont aussi finalement votre sujet peut-être.
Exactement, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on essaie de mettre en valeur voilà, des réalisatrices. Alors effectivement, moi je pense à Céline Sciamma.
Bien sûr.
Fait. Qui est vraiment, qui fait déjà, moi j'adore sa filmographie.
Tomboy, Portrait de la jeune fille en feu.
Exactement, c'est vraiment la figure de proue sur la théorie vraiment du regard féminin. Et c'est vrai qu'elle se démarque aussi des autres réalisateurs et elle fait surtout exploser à travers ses films les carcans des rôles féminins aussi. Elle déconstruit beaucoup de choses et des structures narratives. Mais effectivement, là, je pensais notamment au Festival de Cannes. Parce que
ça a commencé, ça a été ouvert, c'était l'ouverture de Cannes hier.
C'était effectivement hier. Et en fait, sur les films de la compétition, il y a très peu de films de femmes réalisatrices, en fait.
Oui, alors je voulais rappeler que t'es déjà venue, hein, Delphine, il y a, alors je sais plus, je dirais il y a 4 ans, il y a 3
oui,
ans, quelque chose comme
ans,
ça. T'étais venue
à
l'émission que je co-animais, qui était Non mais genre, où on avait déjà abordé cette problématique, en fait, du cinéma et du genre. Et je crois que tu m'avais dit que, enfin, on avait parlé du fait que dans les listes de films qui étaient retenues au Festival de Cannes, en fait, il y avait à peu près 20% de films réalisés par des
Exactement.
Femmes.
C'est toujours le cas.
Et voilà, et c'est toujours le cas, ça n'a pas changé, en fait, depuis 4 ans.
Ça n'a pas changé depuis 3 ans. 3 ans. Effectivement. Et alors, on parlait, effectivement, comme tu l'indiquais, Tiphaine, alors, non seulement des réalisatrices, mais aussi des ingénieurs du son, enfin, toutes les professions. Liées au cinéma qui sont peut-être moins mises en lumière, il y a effectivement, c'est malheureusement encore sous-représenté.
En fait, du coup, j'imagine qu'il y a une double invisibilisation. Une première, parce que c'est des métiers du cinéma qu'on ne connaît pas, et une supplémentaire, parce qu'en tant que femme dans ces métiers-là, on a moins la place.
Exactement, tout à fait. Et nous, on essaie en tout cas de passer des œuvres aussi dédiées à ça. Mais c'est vrai que ça reste encore, malheureusement, c'est encore compliqué, en fait. Et pourtant, aux cinéastes, c'est vrai qu'on essaie... je pense qu'on est un cinéma assez, assez engagé, en tout cas, sur ces sujets-là. Et puis, il y a une forte demande aussi hein, de la part du public aussi. Voilà,
oui, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que dans l'évolution, est-ce que tu as vu une évolution aussi dans le regard, dans l'attitude du public par rapport aux œuvres qui sont proposées.
Et peut-être même sur le type de public qui ouais. vient s'intéresser à ces œuvres-là.
Exactement, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de spectateurs, de spectatrices qui nous sollicitent, en fait, pour notamment programmer des ciné-échanges autour de documentaires, pour que ce soit vraiment aussi un lieu d'expression aussi autour du féminisme, des enjeux aussi. Donc c'est vrai qu'on a une demande, et j'allais dire c'est précieux, une demande accrue aussi de la part du public. Oui.
Et tu veux qu'on passe à ta chronique, Tiffany?
On peut, si on veut, on peut.
Eh ben allons-y, c'est le moment de la chronique féministe de Tiffany.
C'est parti.
Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux dans un monde d'égalité.
J'ai aussi appris très tôt que si l'État veut écraser un mouvement, il a recours à tous les moyens, à toutes les ressources qui sont à sa disposition, d'une part pour réprimer, d'autre part pour diviser les opprimés. D'une main, il frappe, de l'autre, il cherche à assimiler. La peur est une de ses armes favorites pour produire le conformisme et le consentement. J'ai rapidement compris le prix à payer pour se permettre d'échapper à l'injonction. Ne te fais pas remarquer, ne proteste pas et tu n'auras pas d'ennui. C'est pas de moi, c'est de Françoise Vergès, dans Un féminisme décolonial. Je vous préviens, j'ai adoré le bouquin, alors vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Ce constat qu'elle fait, il me parle tellement. Cet apprentissage de la peur, cette violence d'État, elle est là, dès qu'on commence à militer, on la voit. Puis il y a des moments où les foules deviennent courageuses. Les dernières semaines, pour moi, ont été complètement folles. Et puis je me suis surprise à dire à un ami, en ce moment, je suis sur tous les fronts. Mais en fait, c'est pas vrai. Je suis sur un seul front. Je suis sur celui de la lutte, dans la rue, par en bas, par l'émancipation de tous. Mais je trouve aussi que j'ai vraiment beaucoup parlé récemment. Et je crois qu'en fait, je vais me taire dans cette chronique et laisser la parole à mes camarades trans et féministes, aux militants et militantes de Du Pain et des Roses, à Sacha, à Ena, à Morgane, à Kadal, à Alexis, à Savannah et à d'autres.
Aujourd'hui, on se mobilise dans plus de 50 villes de France et de Belgique. Et moi, dans toute mon expérience de militante, je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est historique. On envoie un message aux trans du monde entier que non, on ne va pas avec les réactionnaires, on ne va pas avec l'extrême droite, nous attaquer sans rien dire. Et on a en plus aujourd'hui un gouvernement qui compte en son sang 7 ministres qui sont opposés au mariage pour tous.
Si les enfants trans n'existent pas, si être trans est une illusion forcée dans les esprits des enfants, j'étais quoi, petite ? Persuadée d'aussi loin que je me souvienne que j'étais une fille. Alors que j'avais jamais rencontré une personne trans, que je connaissais même pas le mot, il m'était absolument inconnu. Et je me pensais être seule dans ce cas. Est-ce qu'aujourd'hui je suis tellement sous influence que j'ai inventé ces souvenirs ? Pourtant mes proches, qui sont ici aujourd'hui, s'en souviennent aussi. Ils ont vu les signes de ma différence.
Début des années 90, les réseaux sociaux n'existent pas. J'ai 3 ans et je dis déjà que je suis un garçon. À ma famille, à mes camarades, aux médecins, j'ai 3 ans et on ne me croit pas. Pourtant, je sais. Et j'ai beau le crier partout, je ne suis apparemment pas assez mature pour l'affirmer. Aujourd'hui, on est adulte, on parle de notre transidentité avec ce regard-là, mais en portant toujours en nous ce passé d'enfant sans avenir, d'enfant que l'on refuse d'accompagner, de croire et d'apaiser.
Adolescente puis jeune adulte, je m'imaginais vieille, coincée dans une identité qui me tuait à petit feu. Je pensais... Je serais un papy. Cette perspective était une impossibilité absolue. Mourir me semblait la seule option.
On fait la police du vêtement et on les empêche d'étudier. Alors nous on dit, abaya, crop top, trop court ou pas assez, c'est aux filles de décider. La jeunesse, elle a pas besoin d'uniforme, elle a pas besoin des mesures islamophobes, sexistes, racistes et trans.
Nous, on se souvient de Luna, Avril, une lycéenne trans qui s'est suicidée en 2020 à cause de la transphobie dans son école et de tous les autres. Je sais pas si vous avez vu, mais nous, dans l'éducation, ça fait un moment qu'on est en lutte dans le 93. Mais aujourd'hui, je voulais dire que si on se bat, c'est aussi pour tous ces élèves queer, trans et intersexes. alors qu'on nous menace de coupures austéritaires énormes qui ne sont que la continuité de la casse de l'école publique et de tous les autres services publics. On se bat contre le manque de moyens, mais nous on veut pas des nouveaux plafonds ou des tablettes pour enseigner les programmes de l'extrême droite dans nos salles de classe. Nous on veut des moyens pour une école émancipée, pas pour l'école qui va envoyer les élèves au SNU avec des cours d'éducation sexuelle pour les préparer au réarmement démographique. Nous on veut pas se faire réprimer, voire virer comme les travailleuses de l'éducation aux États-Unis qui sont pris pour cible par les réacs lorsqu'ils respectent les prénoms des personnes trans ou juste lorsqu'ils mettent un drapeau LGBT dans leur classe. On veut plus que nos élèves trans se suicident parce que l'école est un lieu de violence supplémentaire. Non, nous ce qu'on veut c'est des moyens pour des cours d'éducation au genre et à la sexualité, pour soutenir et accompagner les élèves trans et queer, ceux qui se questionnent, pour apprendre aux élèves ce que vivent leurs camarades trans, mais aussi tous les autres, et pour prévenir le harcèlement et la violence qu'ils subissent.
Je pense que les personnes trans aujourd'hui, pour ne plus survivre, mais pour avoir une vie qui est digne, qui est libérée de l'humiliation, qui est libérée de l'oppression, pour faire ça, nous avons besoin de renverser toutes ces idées de merde. Nous avons besoin de renverser tous ces systèmes qui nous exploitent et qui nous oppriment. Pour ça, nous avons besoin d'unir nos forces. D'unir nos forces avec cette jeunesse qui est en train d'occuper les facs dans le monde entier pour protester contre le génocide en Palestine. Une grève générale, l'autorité du mouvement ouvrier, toute la jeunesse, toutes les personnes LGBT, tous les mouvements antiracistes, unis ensemble pour frapper ensemble, si on faisait front pour renverser ce système pourri jusqu'au mal, moi je pense que c'est là qu'on va pouvoir gagner. Je veux qu'on soit cette génération qui n'est pas le témoin de sa destruction, mais qui va gagner la libération trans, qui va gagner le combat pour l'émancipation de tous les opprimés.
Non, moi je veux pas m'asseoir à leur table. Nous, la table, on va la renverser. Donc pour répondre à la question qui nous protège de l'extrême droite et qui nous protège du gouvernement, eh bien ce sera notre camp social à nous.
Non, on va pas s'asseoir à leur table, on va la renverser.
C'est pas mal comme programme. C'est chouette comme...
Ouais, c'était chouette.
C'était chouette ces voix. Et c'est chouette cette musique aussi.
Carrément. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
C'est Compromat. C'est Rebecca Warrior. Et là, on entend Adèle Haenel. Adèle Haenel, le cinéma.
On écoute.
Mon amour. Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
De mon âme.
Le ciel est noir.
sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'écouter De mon âme à ton âme de Compromat avec Rebecca Warrior et Adèle Haenel, la magique, la divine Adèle Haenel. Et du coup, Adèle Haenel, c'est le lien en fait avec le sujet dont on était en train de parler avec Delphine, c'est-à-dire en gros ce qu'on peut appeler aujourd'hui le MeToo au cinéma. Hein. Donc depuis MeToo en 2017, ça a commencé quand même au cinéma, mais aux États-Unis, à Hollywood. Hein. Harvey Weinstein, on s'en souvient. Et puis ensuite, il y a eu des petits soubresauts comme ça dans le monde du cinéma français, mais un monde qui n'est pas organisé pareil que le cinéma américain. Et du coup, qui a été moins poreux, en fait, à toutes ces. Aux remises en cause, en fait, qui ont touché Hollywood. Donc, on a eu Adèle Haenel en 2019, on a eu l'affaire Luc Besson, Dominique Boutonnat, de mémoire, c'est en 2021, quelque chose comme ça, hein, mis en cause pour agression sexuelle sur son filleul, je crois. Quelques autres comme ça, mais ça n'a pas fait bouger la maison. En revanche, depuis quelques temps, on sent que la maison bouge. Enfin, il y a un petit séisme à l'intérieur du système. On a l'affaire Depardieu qui est quand même énorme. Et on a donc Jacques Doyon, Philippe Cobert, Alain Sard récemment, Philippe Garrel, donc qui ont été mis en cause pour agression sexuelle, viol, etc. Et puis, donc, il y a surtout Judith Godrèche qui a porté une parole très très forte sur ces sujets-là et qui a mis en lumière comment le cinéma d'auteur, qui est quand même très révéré en France, hein, c'est quand même le cœur du réacteur, était organisé autour d'un système sexiste, patriarcal, etc.
Mais ce qui est encore saisissant, finalement, c'est le silence, en fait, qui est assourdissant quand même de la famille du cinéma, lorsqu'il est question de violences sexuelles, en fait, dans ce milieu, à commencer d'ailleurs par celui des hommes, dont, je dirais, la parole de certains se délie, mais malgré tout, ça reste encore très timide. Moi, j'ai trouvé vraiment l'appel de Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césars 2024 très juste, lorsqu'elle disait « je parle, mais je ne vous entends pas, où êtes-vous ?» Et effectivement, alors, on parle, oui, de Adèle Haenel aussi, à l'époque, Luc Besson.
Qui s'était barré. Hein.
Exactement.
Virginie Despentes en avait fait une tribune. Oui. On se lève et on se barre.
Exactement. Dominique Boutonnat aussi, dont on a évoqué, le producteur Alain Sard, hein, qui a été visé par les témoignages de 9 femmes dans une enquête qui a été publiée ce lundi 13 mai, d'ailleurs à la veille hein, de l'ouverture du festival de Cannes. Voilà, y a, tout ça, c'est effectivement... C'est...
Et en fait, j'ai l'impression, donc, dans l'affaire de Alain Sard, qui d'ailleurs, il me semble qu'il récidive, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une enquête... pour agression sexuelle ou viol.
Exactement, viol, oui, d'agression sexuelle, de harcèlement.
Ouais. Donc, ben, ça a été traité médiatiquement récemment, et moi j'ai écouté la radio, j'ai écouté France Culture, et la journaliste a dit un truc du genre Alain Sard est éclaboussé par cette affaire. Moi j'ai trouvé ça hyper choquant qu'on dise, des années déjà après le début du MeToo, qu'on puisse encore dire qu'on peut être éclaboussé par 9 femmes qui portent plainte pour viol et agression sexuelle. Est-ce que le traitement médiatique, est-ce qu'il y a une forme peut-être d'omerta sur le cinéma ou d'omerta partielle et un traitement médiatique qui joue ce jeu-là aussi?
Moi, je trouve qu'il y a encore une forme d'omerta quand même dans le milieu du cinéma, dans l'univers du cinéma. Peut-être encore plus d'ailleurs qui est prégnant dans l'univers du cinéma
d'auteur.
Par essai, je trouve. Tu l'indiquais, Bertrand, mais dans l'univers du cinéma d'auteur, du cinéma d'art et d'essai. Voilà, avec effectivement un silence qui est très pesant, en fait.
Qui est le visage aussi, enfin ce silence aussi, c'est le son d'un refus de mettre en cause les bases de ce système, en fait, qu'on
oui,
a décrit.
Oui, c'est un refus, et puis comme tu l'indiquais, Tiffaine, une sorte d'omerta aussi quand même. Hein. Faut dire ce mot quand même. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces affaires, mais... peut-être encore d'autres, enfin voilà, c'est... Et le terme éclaboussé, effectivement, moi, me choque énormément. J'avais écouté aussi cette interview, c'est clairement pas le mot qui est adapté, puis un manque d'égard aussi vis-à-vis de ces 9 femmes hein, qui ont vécu des viols, du harcèlement, enfin des choses, voilà, ignobles.
Par rapport à ça, enfin, j'imagine que le travail d'un cinéma comme les cinéastes, en fait, c'est de programmer des films. Je me trompe pas, non, que j'imagine, il y a des réunions pour choisir celui-là, on le prend, celui-là, on le prend pas. Voilà, on va faire un truc dans ce sens-là, etc. Est-ce que la question de ce film-là, peut-être ça nous intéresserait, mais le réalisateur, il y a ça et ça et ça. Donc voilà, on le prend pas pour telle et telle raison. Pas pour le canceller, mais pour dire on fait un geste fort là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou
Par exemple, on ne passe plus du tout d'œuvres de Roman Polanski.
Ouais.
Par exemple, hein, son dernier film, on ne l'a pas programmé. D'ailleurs, il est très heureusement très mal distribué en France. Donc voilà, on fait le choix aussi. Puis à côté de ça aussi, on fait le choix de passer aussi des documentaires. Par exemple, moi, je pensais notamment au documentaire Les Petits Mâles.
Ah oui, Les Petits Mâles, tu voulais
voilà.
en parler.
On en a malheureusement peu parlé, je trouve, dans la presse, alors que c'est un documentaire qui est très précieux, qui donne la parole à une trentaine de garçons qui sont âgés de 7 à 18 ans et qui sont rencontrés partout en France et dans tous les milieux, aussi les milieux sociaux, donc voilà. Et en fait, ils ont été interrogés sur des thématiques qui sont aujourd'hui au cœur des combats féministes, à savoir, alors il y a plusieurs thèmes, hein, je l'ai dit, ça va pas être forcément exhaustif, mais à travers notamment les injonctions esthétiques, les amours, les amitiés, le sexisme et les violences sexuelles, la fluidité des genres et le droit des personnes. Et moi, j'ai trouvé que ce documentaire était vraiment et très précieux. Et j'invite aussi les collégiens, les lycéens, hein, à venir sur ces projections. On a organisé notamment hier une projection débat avec le planning familial dans le cadre du collectif Tout s'explique. Mmh. Mais je trouve que ce travail devrait être poursuivi au sein aussi des établissements, en fait, de vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge. Hein, parce
et
que...
notamment dans le cadre des heures d'éducation à la vie affective oui. et sexuelle qui sont prévues et qui normalement doivent être à hauteur de 3 heures par niveau, ce qui n'est pas du tout effectué. Mais du coup, ça peut être un très bon support pour travailler là-dessus.
Un support, et puis, alors déjà, le film est très bien, et puis je trouve que c'est aussi un support d'échange qui est très juste, qui est très précieux aussi.
Peut-être pour terminer, Delphine, on peut dire à quel moment on peut aller le voir,
les collèges, les lycées peuvent nous appeler pour organiser des projections scolaires, que ce soit le matin ou en début d'après-midi. Et je pense qu'on refera des projections aussi plutôt en soirée. J'ai pas encore les dates précises, mais voilà, il mérite vraiment d'être vu, ce film.
Et donc, rendez-vous sur le site des cinéastes ou directement aux cinéastes où on peut trouver la programmation de la semaine. Merci Delphine Bruno d'être venue. Merci aux cinéastes de travailler sur ces questions-là. Et on arrive aux annonces de la semaine militante.
Et il y en a beaucoup, alors il faut saisir son agenda. Ce soir, il y a Par la fenêtre ou par la porte qui est diffusé à l'auditorium de la Maison des Arts, 18 rue Georges Bizet, c'est sur l'affaire France Télécom, qui est relatée par les salariés et les syndicalistes qui ont vécu ce combat-là, et c'est proposé par l'Union locale de la CGT d'Allonne. Tout à fait, jeudi, il y a une projection du documentaire Guet-apens, produit par Mediapart, qui aura lieu à 19h30 au cinéma Le Royal.
En présence de Mathieu Magnodex.
Au même moment, il y a Gaza au cœur de la guerre et de l'information, l'AFPS qui invite à la maison pour toutes Jean Moulin, la maison de Jean Moulin du coup, Dany Siffer, donc le journaliste qui va venir présenter ce documentaire-là. Le vendredi 17 mai à 18h30, il y a une manifestation pour lutter contre les LGBTQIA+ phobies. Donc au Mans, le rendez-vous c'est 18h30 pour le départ de la manif, et il y aura des stands à partir de 17h30 et une AG après la manif à laquelle il faut venir. Et puis le lendemain, le 18 mai, il y aura la manif pour la Palestine l'après-midi, place de la République.
À 14h.
À 14h, tout à fait.
Merci Tiffaine. À bientôt,
lutte.
Ça va être une chouette semaine.
Ah bah dis donc.
Au revoir Delphine,
merci. Au revoir, merci à vous.